Quotidien avec Hélène Denis.
Dernière journée d'octobre qui finit dans la flotte. Oui, on prévoit de la pluie pas mal à partir de cette fin de matinée, début d'après-midi, jusqu'à samedi matin. Alors, l'Halloween sera mouillé. Dommage pour les Halloweeneux et les Halloweeneuses. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Mais comme chanterait l'autre, on n'est pas fait en chocolat. Mais c'est quand même décevant quand la météo boude la fête. Mais je suis certaine que les enfants, eux, ne s'en feront pas avec ça. Ils vont courir l'Halloween et ils vont bien mériter leurs bonbons et leurs gâteries. Et parlant d'Halloween, bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène. Bonjour Denis. Qui chantait ça, on n'est pas fait en chocolat?
C'était...
C'est pas
Tricot
pour vous
machine.
Piéger, là.
Non, je sais. Tricot Machine. Ah ouais. Ouais, ouais. Tu te souviens? Vous ne vous en souvenez pas?
Non, moi et mon groupe, on s'en souvenait pas.
Bon, alors j'ai trouvé sur Radio-Canada, ici Radio-Canada, dans la section jeunesse, quelques conseils pour un Halloween plus accessible. Je vais tout de suite les partager avec vous. Je vous tutoyais parce que les conseils ici sont faits au-dessus. Installe une table de distribution de bonbons facilement accessible depuis la rue, bien dégagé, éclairé et exempt de tout danger. Offre des friandises sans allergènes avec une liste d'ingrédients clairs. Pense à offrir une autre option aux bonbons comme des autocollants, on en parlait hier. Évite d'utiliser des lumières stroboscopiques et des bruits soudains et aigus. Garde tes animaux domestiques loin de ton entrée. Si un enfant a une déficience visuelle, dis-lui ce que tu déposes dans son sac et dis-lui la vérité. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Si un enfant a un trouble auditif, montre-lui bien le bonbon avant de le déposer dans son sac. Et en passant, dit Sienna Padulo, qui est cofondatrice du mouvement L'Halloween accessible à tous, en passant de la porte d'entrée à l'extrémité de votre allée, vous éliminez 90 % des obstacles, mais il reste encore 10 % Disposer les bonbons sur une table offre une expérience tactile qui facilite la tâche aux enfants non-verbaux, par exemple. Et cette initiative a été inspirée par un enfant dans un fauteuil roulant, mais elle aide aussi les enfants qui ont des retards de langage, les enfants autistes ou qui ont de l'anxiété sociale, pas besoin de frapper à la porte d'un inconnu, les personnes ayant des troubles sensoriels, moins de bruit et un grand espace pour pouvoir avoir une bulle personnelle. Alors là-dessus, je vous souhaite un peu à l'avance, joyeuse Halloween, c'est demain. Et au bout du fil, Monique Kirouac, qui a fait beaucoup, beaucoup de recherches pour nous cette semaine, vous posez plusieurs questions, Monique. Est-ce que vous avez trouvé des réponses?
Ben, je pense que oui, Hélène. J'espère qu'elles vous captiveront. En fait, le premier article que j'ai retenu, ben, ça traite de la créativité et surtout de la croyance que l'on a tous, je pense, que les gauchers sont plus créatifs que les droitiers.
Oui, bien,
alors,
vous allez...
Alors, il y a un chercheur qui s'est penché sur cette question et vous allez voir que c'est pas tout à fait juste cette croyance. Peut-être alors, un autre mythe urbain.
J'allais dire les sceptiques seront confondus, mais non.
Exactement. Exactement. Puis la semaine dernière, Hélène, vous m'avez posé une question.
Oui.
Vous m'avez demandé, en fait, si je pouvais m'intéresser au hockey.
Mm-hmm. Est-ce alors, que ça vous arrive souvent d'avoir le hockey?
Alors,
vous arrive souvent, vous, Monique, d'avoir le hockey?
Ben, pas vraiment, non.
Non,
vous,
pas tant. Non, mais une fois de temps en temps. Une fois
de temps en temps. Ben, j'ai repéré un article qui explique ce qui se passe physiologiquement lorsqu'on a le hockey, mais surtout, ben aussi, il traite des moyens proposés pour s'en débarrasser. Ah, là aussi, on a un autre mythe qui va être, une autre croyance qui va être défaite.
Ah oui, parce qu'il y en a tellement des croyances. Mais moi, j'ai un truc qui fonctionne, mais j'ai bien hâte de voir, d'entendre ce que vous allez nous dire à ce sujet.
On verra si vous avez, si ça tient la route.
Ça fait partie de votre liste.
Oui,
merci beaucoup, Monique. On se retrouve plus tard, autour de 10 heures et des poussières. On aura aussi la chance de parler avec Anne-Marie Ouellet, Ouellette, créatrice et performeuse de la pièce pour les 7 ans et plus intitulée « Refaire la Marguerite ». Le titre est vraiment joli et ce sera présenté en novembre à la Chapelle Scène Contemporaine. On parle vraiment d'un spectacle familial. Anne-Marie Ouellette est avec son conjoint et ses deux enfants dans cette production. Aussi au menu, les parasports en compagnie de Dominique Tremblay et la chronique de Monique, qu'on a bien hâte d'entendre. Pour tout de suite, juste avant les actualités, les unes des journaux, on y va avec une reprise d'un grand succès de Nino Ferrer à la manière de Bon Entendeur.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps. Et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais.
Madureira, Bon Entendeur avec Nino Ferrer.
À la une du Journal de Montréal, un cœur, M. Legault, M. Ford, en train de boire une bière, mais le cœur ici est brisé. C'était une époque où il prenait une bière de bonne entente, mais là, fini la bromance en gros titre sur le Journal de Montréal. Legault estime que ce n'est pas le temps de se tirer dans le dos. Ford veut dérouler le tapis rouge au doc québécois. Une analyse de Guillaume Saint-Pierre. Je vous en lis quelques bribes. En pleine crise avec les médecins, François Legault s'est fait offrir un magnifique croque-en-jambe de la part de son soi-disant ami Doug Ford. Habitué au coup de gueule, le premier ministre ontarien n'a probablement pas réfléchi longtemps avant de lancer un appel aux médecins québécois insatisfaits de leur sort au Québec. Appelez 1-800-DOG-FORD. Tous les médecins, venez, a-t-il déclaré en point de presse, ajoutant qu'il déroulerait le tapis rouge pour les accueillir. Il a même joué la carte identitaire, ajoutant qu'il existait en Ontario une culture francophone. Selon le Collège des médecins, quelques 200 médecins ont fait des démarches pour aller travailler dans une autre province depuis jeudi dernier. Doug Ford en a profité pour vanter les conditions dans son propre réseau de la santé, soulignant qu'il trouverait du travail très rapidement. La grande séduction ontarienne n'a évidemment pas passé auprès de François Legault, qui aurait pu se passer de cet appel à l'exode. C'est un manque de jugement total, a-t-il lancé en français comme en anglais, pour s'assurer que le message se rendrait bien à l'autre bout de l'autoroute 401. On a tous de gros enjeux pour améliorer nos systèmes de santé dans toutes les provinces. Ce n'est pas le temps de se tirer dans le dos entre les provinces, a-t-il ajouté. Comme un amour d'été, la bromance que les deux hommes ont cultivée a pris brusquement fin. François Legault joue gros dans son bras de fer avec les médecins. Arriver à les mettre au pas devait être pour lui une planche de salut, une façon de montrer qu'il pouvait livrer la marchandise malgré son impopularité. Le Nouveau-Brunswick aussi fait de l'œil aux médecins québécois. Le message à François Legault est clair, arrangez-vous avec vos troubles. C'est le sentiment qui règne de plus en plus un peu partout au pays, confronté à une menace existentielle en Donald Trump, écrit Guillaume Saint-Pierre. Dans cette guerre commerciale avec les États-Unis, les provinces se font nécessairement concurrence et les voix discordantes sont de plus en plus difficiles à ignorer. Et aussi à la une du Journal de Montréal, performance historique pour les Blue Jays à une victoire du championnat. Prochain match demain, vendredi. On parle aussi de la STM, préoccupation de tous et toutes qui voyagent en transport en commun. L'horaire des autobus et du métro de Montréal sera réduit tous les jours entre le 1er et le 28 novembre, incluant le jour des élections municipales, le 2 novembre, dans le cadre de la grève des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal. Le Tribunal administratif du travail a rendu sa décision hier après-midi au sujet du service essentiel assuré pendant la durée du débrayage qui débutera à moins d'une entente entre le syndicat et l'employeur le 31 octobre à 22 heures. Même si la grève commence techniquement demain, c'est uniquement à partir de l'heure habituelle de fermeture du métro dans la nuit de demain à samedi que les horaires commenceront à être perturbés. Les autobus de nuit seront donc à l'arrêt à partir de ce moment. À partir du 1er novembre, le service d'autobus sera uniquement maintenu de 6h15 à 9h15, de 15h à 18h et de 23h15 à 1h15. Tous les bus ayant débuté un départ durant ces plages horaires compléteront leur trajet jusqu'au terminus, mentionne la STM sur son site Internet. Le métro sera quant à lui ouvert de 6h30 à 9h40, de 14h45 à 17h50 et de 23h à 1h. Il s'agit des heures des derniers départs depuis les terminus des différentes lignes. À la une de la presse plus, on parle de santé, de la loi 2, tension avec les médecins piquée au vif. Le premier ministre ontarien Doug Ford, qui encourage les médecins à quitter le Québec, la fille praticienne d'un ministre qui menace publiquement de quitter la province, et bien d'autres qui ne décolèrent pas. La tempête ne s'estompe pas pour François Legault. Au contraire, Yves Boisvert signe une chronique intitulée « François Legault doit stopper la réforme ». Il écrit sur la chronique d'Yves Boisvert. Il écrit en quelques mots « Une médecin de 32 ans a réglé le cas de la loi 2 que le ministre Christian Dubé veut imposer aux médecins du Québec. Elle a attiré l'attention en raison de son nom de famille, bien entendu. Laurence Carman est la fille de Lionel, ministre responsable des services sociaux, mais aussi neurologue. Politiquement, ça la fout mal pour le gouvernement de François Legault. Le ministre Carman a beau faire preuve de solidarité ministérielle, c'est une solidarité de façade. Plusieurs collègues caquistes un peu paniqués regardent Christian Dubé conduire sa réforme à grande vitesse sans savoir où elle s'en ira. Mais là n'est pas l'essentiel. Dans sa lettre au devoir, la jeune médecin surspécialiste formée au Québec et en Ontario a dit ce qu'il y a de fondamentalement vicié dans la loi 2. Ce qu'il y a de vicié, ce n'est pas qu'on demande aux médecins d'atteindre des cibles de performance. Bien des choses n'ont pas de sens dans le mode de rémunération à l'acte dans l'état actuel des choses. Ce qu'il y a de vicié, c'est qu'on demande à un groupe d'atteindre des cibles collectives de performance en sachant très bien qu'elles ne sont pas atteignables. À la une de la presse, j'y reviens, on parle de la série mondiale, les Blue Jays à une victoire d'un sacre. Et puis, on parle aussi des 30 ans du référendum. On a eu une chronique à ce sujet hier avec le collègue Serge Bradet. C'est aujourd'hui même que le référendum se tenait. 30 ans après le référendum, j'avais des options. En cas de victoire du oui, le premier ministre d'alors, Jean Chrétien, aurait pu déclencher un référendum à son tour. Louise Beaudoin a repris espoir. C'est formidable de voir venir cette ferveur. Et on pose la question, 30 ans après le référendum, vers un nouveau camp du changement? Point d'interrogation.
C'est une fille de Boston que j'ai connue à Boston. On s'est croisés à Boston dans un parc de Boston. Elle était à Boston pour un week-end à Boston. Pour une raison.
Devinez le titre de cette chanson des trois accords.
Toronto?
Non, c'était Boston.
Oui, les trois accords, uniques en leur genre. Et c'est une chanson qui fait partie de leur nouvel album « Toujours les vacances ». À la une du Devoir, 30 ans depuis le référendum, je me pose toujours la question, est-ce qu'on dit référendum ou référendum? Le nouveau projet souverainiste, et c'est un texte de François Carabin, le Parti québécois a sa vision de l'indépendance. Québec solidaire en a une autre. Mais 30 ans, jour pour jour, après le référendum de 1995, que reste-t-il au juste du projet souverainiste de l'époque? Le Devoir s'est posé la question. On en parle un petit peu partout dans Le Devoir d'aujourd'hui, de ces 30 ans importants. Et il y a aussi Lisette Lapointe dans les cercles du pouvoir. Lisette Lapointe qui a accordé une entrevue pour l'apparition de ses mémoires intitulées « De combat et d'amour ». Toujours à la une du Devoir, on en parlait aussi à la une de la Presse+, la loi sur les médecins. La fille de Carman songe aussi à s'exiler. Marie-Michèle Sioui, correspondante parlementaire à Québec, la médecin Laurence Carman, sur spécialiste dans son domaine en fœto-maternelle, la médecine fœto-maternelle, et elle est la fille du ministre Lionel Carman. Elle songe à quitter le Québec en raison de la loi spéciale sur les médecins. Si le gouvernement ne me permet pas de pratiquer librement, je n'aurai malheureusement d'autre choix que de quitter le Québec pour une autre province. Et plusieurs collègues, tout aussi attachés au Québec, mais attirés par de meilleures conditions, en sont au même point, écrit-elle dans une lettre qu'elle a transmise au Devoir. Dans celle-ci, la docteure Carman écrit que le ministre de la Santé, Christian Dubé, semble attribuer aux médecins le manque de productivité observé au Québec. Or, pour la majorité, l'écart avec l'Ontario ne relève ni du manque de volonté, ni de la paresse. C'est le symptôme d'un système profondément brisé, se désole-t-elle. Et puis, en page 2 du Devoir, on peut voir l'ancienne vice-première ministre Lise Bacon, qui n'est plus première vice-première ministre du Québec sous Robert Bourassa et deuxième femme à siéger à l'Assemblée nationale. Lise Bacon est décédée mercredi à l'âge de 91 ans à Montréal. Elle a occupé différents postes de ministre au sein du deuxième gouvernement Bourassa et a notamment fait adopter en tant que ministre des Affaires culturelles la loi sur le statut professionnel des artistes en 1986. Hier soir, je suis sortie, je suis allée dans l'est de la ville. J'ai vu la pièce « Malaise dans la civilisation » qui est présentée à la salle Fred Barry du Théâtre Denise Pelletier. Quel beau théâtre! Pièce écrite par Étienne Lepage et le titre est inspiré d'un ouvrage de Sigmund Freud. D'ailleurs, ça me prendrait un psychanalyste pour m'expliquer ce à quoi j'ai assisté. Mais sans blague, cette pièce qui avait été présentée au FTA, je pense que ça fait 2 ou 3 ans, avait été reçu de différentes façons. Ça allait du plus négatif au plus emballé. Et on est devant donc 4 personnages qui débarquent sur une scène théâtrale. Les premières minutes sont silencieuses. Personne ne parle et c'est quand même assez long, mais ils bougent dans la salle, ils bougent sur la scène, ils regardent aussi les gens du public. Là, ils brisent vraiment le quatrième mur. On se demande qui sont ces personnages, qui sont ces personnes. La salle est, on sent quelquefois le malaise. Il y a beaucoup de rires et il y a des rires qui sont justifiés, mais il y en a d'autres non. Et les personnages sont vraiment bizarres. Et quand ils se mettent à parler, on ne comprend pas plus. On comprend qu'ils sont hors normes. Ce sont des clowns philosophes. On pense à l'univers de Samuel Beckett, à un numéro d'improvisation qui aurait pu être improvisation libre sur le sens de nos agissements envers soi et envers les autres. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit ça? Et on pense aussi à rien. On se laisse complètement aller. Alors moi, j'ai comme oscillé devant ce spectacle-là entre le rire et l'ennui. C'est une expérience théâtrale avec de très bons comédiens que je salue d'ailleurs. Maxime Genois, Renaud Lasselle-Bourdon, qui est particulièrement agile physiquement et aussi dans son jeu de comédien dans l'ensemble. Debbie Lynch White, Alice Moreau, ils sont complètement investis. C'est ce que j'ai aimé aussi de cette expérience théâtrale. Et aussi, je m'incline devant Josiane et Sylvie, qui sont 2 spectatrices qui ont goûté à la médecine des personnages. Je ne vous en dis pas plus. La pièce, si ça vous intéresse, est présentée, je le rappelle, à la salle Fred Barry. C'est au théâtre Denise Pelletier. Jusqu'au 15 novembre, la pièce porte très bien son titre « Malaise dans la civilisation ». Eh bien, on vient d'apprendre que le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, quitte ses fonctions de ministre dans la foulée de l'adoption sous bâillon de la loi 2 qui vient changer le mode de rémunération des médecins. « Je choisis ma famille », a déclaré M. Carman. Le principal intéressé en a fait l'annonce jeudi matin, ce matin en conférence de presse, accompagné du premier ministre qui est un ami personnel. M. Carman siégera comme député indépendant. Sa décision survient au lendemain de la publication d'une lettre au Devoir par sa fille, médecin spécialiste, qui s'en prend à la réforme du gouvernement Legault. « Après une réflexion sincère et beaucoup de discussions avec mes proches, j'ai pris la décision déchirante de quitter mes fonctions de ministre. Les dernières semaines ont été difficiles et m'amènent aujourd'hui à recentrer mes priorités. Je fais le choix de ma famille, la famille que nous avons construite, mon épouse et moi », a expliqué le ministre avec calme. « C'est sûrement pas facile de quitter le dossier qui me passionne, mais je crois que c'est la bonne décision pour moi et les miens. Cette décision n'est pas un renoncement, mais plutôt un choix de responsabilité. J'ai toujours cru que l'engagement politique devrait s'exercer avec équilibre, lucidité et honnêteté envers soi-même et envers les autres », a-t-il ajouté. « Dans la vie, il faut toujours d'abord choisir sa famille », a pour sa part affirmé M. Legault ébranlé. Il a dit comprendre la décision de son ministre, qui est l'un des signataires du manifeste ayant mené à la création de la coalition Avenir Québec. Les deux hommes se sont fait une longue étreinte après l'annonce. Bon jeudi 30 octobre 2025, Hélène Denis qui vous accompagne jusqu'à 11 heures. À venir, la chronique de Monique Kerouac, les gauchers sont-ils plus créatifs? Et pourquoi on a le hockey et comment s'en débarrasser? À suivre.
Vous pouvez rejoindre nous écouter au quotidien avec Hélène Denis.
Pour tout ce qu'on a fait, pour tout ce qu'on s'est dit, pour ce qu'il reste à faire, pour ce qu'on a grandi, pour mieux te revenir, pour mieux te retrouver, pour ne pas que vieillisse tout ce qu'on s'est donné, pour l'ivresse et les rires et ta fougue et mes larmes, ce qui fait que le jour n'est plus un drame, pour ce qui m'a forcé à rester éveillé. Pour ne pas que pourrisse le soleil de l'été, je pars mais je reste. Je pars mais je reste. Ils étaient beaux nos rêves, mais elles sont belles nos vies. Aussi, aussi, je pars mais je reste. Je pars mais je reste. Je suis sûr que tu pardonnes. Quelqu'un d'autre avec toi. Moi j'étais fou de nos étranges habitudes qui me faisaient penser qu'on était une certitude. Je ne dis pas maintenant que tout est différent, mais c'est la saveur de tout ça qui prend à mon cou et fait trembler ma voix. Toi tu voulais le monde, moi je voulais le tien. Mais c'est tout seul à présent que je me demande comment t'as bouleversé le mien. Alors pour nos secondes là-bas et pour les tiennes ailleurs, sans moi, tu vois, je pars mais je reste. Je pars mais je reste. Ils étaient beaux nos rêves, mais elles sont belles nos vies. Aussi, aussi, je pars mais je reste.
Dieu, tu pardonneras. Après tout, si quelqu'un d'autre avec toi, je pars, mais je reste. Je pars, mais je reste. Ils étaient beaux nos rêves, mais elles sont belles nos vies. Aussi, aussi, je pars, mais je reste.
Charles Doré, je pars, mais je reste.
Et elle n'est pas partie bien loin puisqu'elle est avec nous au bout du fil. On la retrouve avec plaisir, Monique Kirouac. Monique, les gauchers sont-ils plus créatifs?
Eh oui, grande question, n'est-ce pas?
Grande
Alors,
question,
si je vous
oui.
dis, Hélène, Léonard de Vinci, Lady Gaga, Van Gogh, Jimi Hendrix, Mozart...
Sont tous droitiers.
Pardon?
Sont tous droitiers.
Non, ils sont tous gauchers.
Ben oui, on ne l'avait pas vu venir.
Ben non, c'est ça.
Êtes-vous gauchère, vous, Monique?
Moi, non, je suis droitière. Non. Et vous?
Je suis droitière. Mathieu, droitier?
Je suis maladroit des deux.
Oui. Ambidextre, maladroit.
Exactement.
C'est ça. Alors, ça semble tomber sous le sens, aussi bien dans la culture populaire que dans la littérature scientifique. Le fait d'être gaucher est associé à une plus grande créativité. Sauf qu'en balayant plus de 100 ans de données, le postulat ne tient pas. C'est ce que nous assure en tout cas le psychologue Daniel Casasanto, qui est professeur à l'Université Cornell aux États-Unis. Alors, Daniel Casasanto a commencé ses travaux en partant de l'hypothèse que les gauchers sont plus créatifs que les droitiers. Son objectif, c'était d'étudier comment l'appréhension et l'utilisation de notre main dominante peuvent influencer notre créativité. Sauf que, en parcourant la littérature existante, son équipe de recherche et lui-même se sont rendus compte que, statistiquement parlant, ben, il faisait fausse route. Ils ont regardé toutes les études qui mesurent la créativité en laboratoire et dont la main dominante des volontaires a été répertoriée. Alors, pour évaluer différents pans de la pensée originale, toutes ces études se fondent sur trois tests. Il en nomme deux. Premièrement, la capacité de trouver un lien entre deux mots apparemment très éloignés. Et deuxièmement, la manière plus ou moins innovante d'utiliser un objet du quotidien. Et ce qu'on observe donc au travers des résultats à ces tests, c'est que les gauchers ne font pas preuve d'une créativité supérieure à celle des droitiers ou des ambidextres. S'il fallait tirer une tendance, ce serait au contraire que les droitiers sont plus créatifs. Alors, les gauchers semblent pourtant plus nombreux dans les métiers liés à l'art, la musique et l'architecture. Mais dans les deux premiers, la prévalence des gauchers est supérieure par rapport à leur répartition dans la population globale, mais ce n'est pas le cas pour le troisième, soit en architecture, pour essayer d'élargir le panel. Ben, les chercheurs ont analysé une vaste étude américaine de 2014 qui a classé, Hélène, tous les métiers selon le niveau de créativité requis. Ce qui ressort, c'est que l'art, la musique et l'architecture font bien partie des plus créatifs, mais on trouve aux premières places les mathématiques et la physique, des domaines où une pensée nouvelle est nécessaire. Or, à travers les 771 professions évaluées, la main dominante des individus ne semble pas avoir de lien avec le niveau de créativité. Et quand on regarde les 25% des métiers les plus créatifs, voilà, ce sont les droitiers qui sont surreprésentés. Alors, Que dire alors des théories neuroscientifiques sur le fonctionnement des hémisphères cérébraux qui soutiennent l'idée que les gauchers devraient être plus créatifs? Une de ces théories nous dit que la créativité loge dans l'hémisphère droit, que les gauchers stimulent quand ils manipulent un objet avec leur main gauche. Par relation de proximité, cela pourrait entraîner un surdéveloppement de la zone et stimuler leur créativité. Il y a une autre théorie, qui est celle de la communication interhémisphérique, qui suppose que la capacité à créer des idées nouvelles, des idées qui sortent du cadre, repose sur la communication entre les hémisphères. Or, celle-ci est plus développée chez les gauchers, sans doute parce qu'ils ont plus souvent tendance à être ambidextres et à faire travailler les deux hémisphères au quotidien. De fait, les résultats de l'équipe du docteur Casasanto ne contredisent pas fondamentalement ces deux théories. Mais le chercheur pense que nous attribuons une trop grande importance à la main dominante, comme si, finalement, la deuxième ne servait à rien. Ben, en réalité, que ce soit pour planter un clou dans un mur, signer un chèque, ce qu'on fait de moins en moins, ou pianoter sur un clavier, ben, nos deux mains sont mobilisées, même si ce ne sont pas pour les mêmes gestes. Un droitier développe donc aussi ses communications interhémisphériques et son hémisphère droit. Alors, pourquoi cette idée de gaucher plus créatif s'est-elle alors si facilement imposée? Bien, c'est un peu une caricature de la science. Des papiers relayant cette idée ont rapidement attiré l'attention et ont été beaucoup repris avec un effet boule de neige. Sans compter que la science a tendance à tenir pour acquis certaines notions très novatrices qui s'appuient parfois sur des études peu représentatives, avec peu de participants, mais qui vont pourtant perdurer, accumulant des citations, dans d'autres articles. Mais ce n'est pas le point de vue de la science qui a influencé l'opinion publique. L'hypothèse du professeur Casasanto, c'est que nous avons tendance à associer les caractéristiques extraordinaires. Les gauchers sont rares, les génies créatifs sont rares, donc les deux sont forcément liés. Et cette association est tellement ancrée que la statistique la plus claire et la plus franche qui ressort de la méta-analyse de l'équipe de recherche du professeur Casasanto, c'est que les gauchers, comme les droitiers, sont persuadés que les gauchers sont plus créatifs, alors que ce ne serait pas vrai, selon ce professeur. Alors, voilà, Hélène, vous en savez plus sur cette croyance qui dit que les gauchers sont plus créatifs.
Bien oui, pour une fois qu'il y avait quelque chose de positif, parce qu'ils ont été souvent mis au banc, les gauchers.
Oui, aussi, c'est vrai, tout à fait. Hein, on nous tapait sur les doigts, des élèves qui étaient gauchers. Alors, c'est un article qui a été publié dans la revue Epsilon du mois d'octobre 2025.
Alors, je ne sais pas si vous avez tout prêt votre article concernant le hockey, Monique.
Oui, je l'ai.
Pourquoi on a le hockey et comment s'en débarrasser?
Alors, pour répondre à la question, il faut commencer par révéler en fait ce qui se passe quand on a le hockey. Alors, il y a un muscle sous nos poumons qui s'appelle le diaphragme. Il est très important, même si normalement on n'a pas conscience de l'utiliser. Quand on inspire, ce muscle va tirer sur les poumons pour les aider à se remplir d'air. Quand on a le hockey, ce muscle va se contracter de manière involontaire. On parle alors de spasme. À chaque spasme, de l'air va rentrer très vite dans nos poumons, comme si on inspirait d'un coup. L'air qui va entrer va activer nos cordes vocales et ça provoque le fameux hic. Cela va se produire une seule fois ou plusieurs pendant quelques minutes. Hélène, je vous révèle un record du monde.
Oui.
Il est détenu par un Américain. Il l'a eu pendant combien de temps?
Dites-moi pas un an.
11 ans.
60 ans.
Non!
Oui.
Pauvre lui!
Ah oui, c'est ce que dit l'article en tout cas. Je ne sais pas comment on peut réussir à manger, à parler, à faire quoi que ce soit en ayant le hockey comme ça.
60 ans!
Alors, ça n'a pas d'allure. Hein?
C'est long, longtemps.
C'est long, longtemps, oui. Je ne sais pas comment ils l'ont arrêté. Est-ce qu'il est mort ou ça ne dit pas là, dans l'article. Le hoquet, c'est généralement déclenché par le fait de manger ou de boire trop et trop vite.
Moi, ça m'arrive souvent quand je ris. Quand je ris à gorge d'employé, j'allais dire. Déployé, à un moment donné, ça me fait hoqueter. Mais aussi les boissons gazeuses.
Ah, bon.
Poursuivez très cher.
Voilà pour les boissons gazeuses. Cela peut étirer et perturber notre estomac, puis ça provoque alors le hoquet lorsque le diaphragme se contracte. Mais il y a aussi des changements soudains de température ou une trop grande excitation. Alors, voilà la réponse.
Oui.
Si vous riez, vous êtes excité, ben, ça peut déclencher le hoquet. C'est bon, okay. Non?
Ben, c'est bon, certain.
Alors,
vous savez,
faut pas rire. Alors, normalement, ces hoquets se résorbent rapidement. Cependant, si une personne souffre d'une maladie du cerveau, des nerfs ou de l'estomac, elle peut avoir le hoquet souvent et pendant longtemps. Alors, comment le faire disparaître? Retenir sa respiration? Boire de l'eau à l'envers? Il existe des conseils en tout genre. La plupart des hoquets, Hélène, disparaissent d'eux-mêmes. Il est donc difficile de dire si ces astuces fonctionnent. Ils pourraient n'être qu'une distraction, mais ils pourraient aussi aider à réinitialiser les nerfs à l'origine du hoquet. Il y a une grande étude comparant tous les différents traitements qui a montré qu'aucun d'entre eux ne fonctionne réellement. Alors, pourquoi nous hoquetons est une très bonne question. Et la réponse est que nous ne savons pas vraiment.
On vous a perdu, Monique, la dernière phrase? La réponse?
J'ai dit pourquoi nous hoquetons est une très bonne question.
Oui.
Mais la réponse est que nous ne le savons pas vraiment. Le hoquet n'a pas de but évident. Il est possible qu'il ait fait quelque chose chez nos lointains ancêtres et qu'il ne nous ait jamais quittés. Alors, on nous donne l'exemple des têtards qui ont un réflexe de hoquet qui les aide à préserver leurs poumons lorsqu'ils passent de la respiration sous l'eau à la respiration aérienne. Donc, notre réflexe de hoquet pourrait provenir de nos ancêtres amphibiens. Nous commençons tous notre vie dans le liquide de l'utérus de notre mère. Une autre théorie veut donc que le hoquet nous empêche de respirer dans l'utérus ou qu'il soit un moyen d'entraîner les muscles respiratoires après la naissance. Finalement, nous savons ce qu'est le hoquet, mais nous ne savons pas vraiment pourquoi il se produit. La bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, on n'a pas à se soucier de savoir comment le faire disparaître.
Vraiment. Alors, intéressant ce texte sur le hoquet. Merci de l'avoir partagé avec nous. Et vous, est-ce que vous avez un truc pour arrêter le hoquet? Ou...
Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu le hoquet. Je ne sais pas si... Je pense que je laisse aller.
Vous laissez aller?
Ben oui, j'attends que ça passe.
OK. Ben moi, je t'ai porté à... j'ai déjà essayé le truc du verre d'eau, de boire un verre d'eau à l'envers, la tête à l'envers. Retenir ma respiration, j'ai l'impression que ça fonctionne. Et aussi, je sais pas si vous êtes déjà fait poser la question pendant que vous aviez le hoquet, Monique.
Oui.
As-tu confiance en moi? Parce que ça déstabilise. Puis là, tu dis, bien oui. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que ton hoquet s'est arrêté.
Ah, ben écoutez, la prochaine fois que j'aurai le hoquet, si ça se produit, ou que quelqu'un dans mon entourage.
Oui, c'est surtout quelqu'un. Oui. Si votre chéri se met à hoqueter, posez-lui cette question-là.
Ça lui arrive parfois. Alors, je vais retenir cette question assez déstabilisante, en effet, mais peut-être que ça donne un message aux nerfs, comme on le relatait dans l'article.
Oui, certainement. Ben oui, ça aurait du bon sens. Mais en tout cas, je compatis avec la personne qui a eu le hockey pendant 60 ans. Si
oui,
ça s'avère.
Mon Dieu, quelle horreur. Oh!
If you're tired, baby, I can drive. Let's make it a point of staying alive. Open up another tangerine. When the skin was dirty, but the fruit was clean.
You wanna love, you wanna get it right. Holding you close on the edge of a knife. Wanna feel the way we did that night. When the moon was heavy and the world was light. Spend a minute with me out of time. Where nothing is yours and nothing is mine. Your dream is by the swimming pool. When the water was warm and your skin was cool. And the harder that I try to hold on what I've been and what I've seen and what I know. And the way I think that it's supposed to go. Well, the harder it gets just to see it shine. And I might not get it, but I'll always try. Get it, but I'll always try. And the harder that I try to hold on to what I've been and what I've seen and what I know, and the way I think that it's supposed to go, or the thing that I can if I can't control. Like getting sad, like getting old, like holding my hand up against the cold. And the harder it gets just to see it shine. And I might not get it, but I'll always try.
The Bar Brothers, Another Tangerine.
Toujours avec Monique Kirouac. Yvan Deslauriers sera de retour jeudi prochain avec nous. Pour le moment, il est très occupé par les élections municipales. Monique, bonne nouvelle relative au cancer de la vessie.
Et oui, un test rapide qui a été développé à Sherbrooke, Hélène, est en voie de commercialisation. C'est après, bien sûr, plusieurs années de recherche et plus de 3 millions investis. Donc, cette équipe sherbrookoise est sur le point de révolutionner la détection du cancer de la vessie. Un simple test d'urine pourrait bientôt remplacer la cystoscopie, qui est une procédure invasive, douloureuse, coûteuse et parfois difficile d'accès. Alors, après un processus de validation rigoureux à l'échelle mondiale, l'équipe de l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke et du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke, cette équipe est maintenant prête à amener le produit au chevet des patients et patientes et s'allie avec une entreprise qui s'appelle RIND, R-Y-N-D Biotech, pour la commercialisation du test rapide. Cette innovation, déjà suivie par des experts et des investisseurs à l'échelle mondiale, représente une percée majeure pour le diagnostic du cancer de la vessie. Ce partenariat permettra de lancer le développement du prototype d'ici la fin de l'année pour une commercialisation prévue dès 2028-2029. C'est une avancée majeure parce que ce test est parmi les plus précis. Il permettra de détecter le cancer de la vessie plus tôt et dans des conditions, vous le devinez, moins anxiogènes pour les personnes touchées. L'arrivée de ce test sur le marché va changer la donne pour bien des gens tout en contribuant à réduire les coûts en matière de soins de santé. En recherche en santé, il est par ailleurs plutôt rare qu'une découverte franchisse toutes les étapes jusqu'à la commercialisation d'un produit concret à la suite d'une recherche fondamentale. C'est donc un très bel événement, je dirais. L'équipe de recherche s'est d'ailleurs mise à pied d'œuvre pour appliquer cette même technique au diagnostic du cancer de la prostate. Ils sont en train d'identifier les biomarqueurs qui y sont reliés. Alors, on a bien hâte à ce que tout ça soit mis sur le marché et peut-être donc une autre perspective positive avec le diagnostic sur le cancer de la prostate qui est assez invasif aussi comme démarche.
Très, très bonne nouvelle. Essai concluant pour une pilule masculine. Une pilule quoi?
Eh bien, oui, on est dans les recherches. Alors, une pilule masculine, est-ce qu'on aurait pensé à ça il y a quelques années? On l'a peut-être souhaité, nous, comme femmes. Hein?
Oui.
Alors, YCT-529, ça, c'est le produit, en fait, qui inhibe la production des spermatozoïdes dans les testicules de façon réversible par un mode d'action non hormonal. Alors, elle vient de prouver son efficacité chez l'animal et sa tolérance à court terme chez l'homme. Alors, on tient peut-être un véritable game changer, comme on dit en France, parce que c'est un article français, pour la contraception masculine. C'est ce que nous dit en fait Stéphanie Page, qui est chef du service d'endocrinologie de l'Arborview Medical Center. Bon, il y a une petite réserve. Il faut que ces données scientifiques encourageantes se confirment, notamment par la tolérance à des doses répétées. Alors, c'est à suivre, Hélène.
Absolument, c'est une nouvelle surprenante.
Oui.
Et où sera construit le plus grand pont suspendu au monde, Monique?
Eh bien, ce sera entre la Sicile et l'Italie. Alors, c'est une bonne nouvelle, ça va faciliter les choses. On le devine, non? Le projet a dû susciter de nombreux débats. C'est le fait, en fait, depuis plusieurs décennies. Alors, le gouvernement italien vient d'approuver, finalement, la construction de ce qui sera le plus grand pont suspendu au monde, 3,7 km de long et 60 mètres de large. Alors, on pourra le traverser en 2032, puisque c'est à ce moment qu'on annonce la fin des travaux.
Alors, c'est à suivre aussi entre la Sicile et l'Italie.
À suivre, hein,
oui, plein de choses, parce que ce sont des choses qui ne sont pas achevées, mais ils sont à l'état de projet. Et des projets qui sont bien entamés quand même. Et oui, on termine, bien. Monique, avec une capsule linguistique. C'est important d'intervenir à ce point-ci. Point oui. P-O-I-N-T, trait d'union C-I.
Exactement.
C'est bon, ça?
Alors, j'aimerais préciser, Hélène, que Guy Bertrand a publié un nouveau livre qui s'appelle « Le français au micro, chronique de langue ». Et en fait, ce sont des phrases qu'il a entendues au fil des années où il a travaillé à Radio-Canada. Donc, ça a été entendu sur les ondes de cette radio.
Oui, on en entend de toutes les couleurs.
Ah, mon Dieu, je vais revenir sur Rencontrer, d'ailleurs. Oh là là! Alors, la locution à ce point-ci n'est pas usuelle. On dit plutôt « à ce point » ou « à ce point-là ». Ce sont des locutions qui servent à marquer un degré d'intensité. On peut dire, par exemple, « je ne savais pas qu'elle était malade à ce point » ou « à ce point-là ». Si on revient à la locution à ce point-ci, il faut référer à l'anglais, en fait, parce que ça vient des locutions « at this point » et « at this point in time ».
Yes.
Donc, ils servent à indiquer le moment où on se situe dans le temps.
Mm-hmm.
De beaux équivalents en français, ben, c'est « à ce stade » et « à ce stade-ci ». Donc, on aurait pu dire
oui.
« c'est important d'intervenir à ce stade-ci ».
À ce stade-ci et non à ce point-ci.
Voilà, exactement.
Ah, mais je ne savais pas que Guy Bertrand avait publié un nouvel ouvrage.
Oui, tout à fait. Écoutez, c'est un ouvrage assez volumineux.
Assez costaud, oui.
Je vous donne le nombre de pages. On en a 428 pages. J'avais pas mal épuisé ces capsules linguistiques, tome 1. Alors, j'étais très heureuse de voir cette nouvelle publication.
Alors, il a dû sentir là, que vous étiez... presque au bout de son premier livre.
oui, exactement. Je l'en remercie, et puis c'est très intéressant.
Et nous, on vous remercie beaucoup, Monique Kirouac, et on vous souhaite une très belle semaine.
Bien, à vous aussi, Hélène. On se retrouve jeudi prochain.
Avec plaisir.
vous pouvez rejoindre notre... Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Comment tu t'appelles? Moi, c'est Marceau.
C'était Marceau et sa chanson « Être heureux ».
La maison d'édition Le Dauphin Blanc annonce le lancement d'un ouvrage intitulé « Grandir comme proche aidant, 12 clés pour accompagner un être cher » de l'auteur ou l'autrice Claudia Rouleau, qui sera en librairie aujourd'hui même. Ce lancement s'inscrit à l'occasion de la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui se tiendra dès le 2 novembre, donc ce dimanche, jusqu'au 8 novembre pour reconnaître l'engagement des proches aidants et leur apport essentiel à notre société. Selon l'enquête réalisée par l'organisme L'Appui, un adulte sur trois est proche aidant au Québec, ce qui représente 2,4 millions de personnes. Cependant, 35 % d'entre elles ne savent pas qu'elles le sont et n'ont pas le réflexe de recourir aux services, aux organismes et aux crédits d'impôt existants. Ayant été elle-même proche aidante, l'autrice et conférencière Claudia Rouleau embrasse cette cause en donnant des conférences à travers le Québec, en collaborant à des projets de recherche en proche aidance et en siégeant sur le CA d'organismes. Après la chanson de Lou Adriane Cassidy, on parle avec Anne-Marie Ouellette de la création « Refaire la Marguerite » qui sera présentée dès le 8 novembre à la Chapelle Sainte Contemporaine.
Jamais, jamais, jamais.
la chanson « Jamais tout à fait » de Lou-Adrianne Cassidy.
Lou-Adrianne Cassidy, qui fait partie des artistes qui seront en prestation. Ça a été dévoilé ce matin au Gala de la Disque du 9 novembre, animé par Pierre-Yves Roy Desmarais. Il y a aussi Ariane Moffat qui va chanter sur la scène. Ariane Roy, Billy Dupage, Clément Jacques, Francis de Grandpré, Fred, Jay Scott, Claude Pelgag, Christelle Mongeau. Matt Lang, Pierre Lapointe, Rhymes, Sarah May, ainsi que Soleil Launière. Refaire la Marguerite, très beau titre. C'est une pièce qui sera présentée à partir du 8 novembre à la Chapelle Scène Contemporaine dans le cadre du nouveau festival La Mèche Courte. Et j'en parle avec la créatrice-performeuse Anne-Marie Ouellette. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que ça raconte, Refaire la Marguerite? Pourquoi ce titre? Ça vient d'où?
Qu'est-ce que ça raconte? C'est une bonne question parce que c'est plus une expérience sensorielle qu'une histoire. Mm-hmm. Mais Marguerite, on la voit comme une personne très chère, mais disparue, très énigmatique. Et le spectacle se veut une cérémonie de célébration, une sorte de rituel.
On n'est pas dans les fleurs ici. Ben, vous lancez peut-être des fleurs à Marguerite, mais c'est pas la Marguerite fleur, c'est une personne.
C'est un peu la fleur, c'est un peu Marguerite Duras qui nous habite beaucoup.
Okay.
C'est un peu une enfant Marguerite qu'on a connue, mais ça devient un personnage que chacun peut s'approprier. Ça peut être la grand-mère de quelqu'un, au sens large, que je peux s'approprier, je dirais.
D'accord. Alors, Anne-Marie, le spectacle se déroule, j'ai lu là, sur le communiqué, dans un théâtre sinistré avec une famille qui s'y installe comme des survivants poètes parce que vous êtes entourée de Thomas Sinou ainsi que de Jeanne Sinou et d'Inès Sinou. C'est votre famille, votre conjoint, vos enfants?
C'est ça. Mon conjoint Thomas qui est concepteur sonore, performeur, et nos deux filles qui ont 6 et 15 ans qui performent et qui nous ont aidés aussi à créer le spectacle.
Ah oui, quand vous parlez de performance, quel genre de performance vous offrez?
Bien, justement, donc le théâtre a pris l'eau. Nous, on s'y est réfugiés, on s'est construit une petite maison. Et au lieu de se dire, ça perd les popettes, il pleut, qu'est-ce qu'on va faire, c'est le gros dégât, ben, on décide de prendre la situation à l'envers et d'en faire justement, de célébrer l'eau qui tombe, l'eau qui s'infiltre, et on va mener plein d'actions poétiques et musicales avec les fuites d'eau, en hommage probablement donc à Marguerite, mais c'est ça, donc on a conçu, surtout Thomas, un système qui nous permet de contrôler de façon métronomique les gouttes qui tombent. Donc au début, on les accueille avec des seaux, différents récipients, puis ensuite, c'est plutôt des trompettes, des tambours de drum qui vont recevoir la goutte d'eau pour finalement créer une espèce de grand jam de la pluie.
Est-ce qu'il y aura de l'eau pour vrai?
Ah ben oui, ça prend de l'eau, c'est la matière, c'est le personnage principal, c'est l'eau.
Ah oui?
Et liquide, donc c'est pour ça que je parle de performance, parce que nous, on se met au service de
l'eau. Vous mouillez?
Au service du dégât, puis on veut la magnifier, donc on a fait un gros travail aussi pour la mettre en lumière, pour l'éclairer, les splouches, les jets. Les spectateurs risquent d'être un petit peu éclaboussés, pas trop. Là, mais
ah oui, est-ce que vous nous conseillez d'apporter nos parapluies et nos imperméables?
Non, mais on a prévu des bâches pour la première rangée.
D'accord, mais vous êtes bien aimable. Alors, ce spectacle s'adresse aux enfants dès 7 ans.
Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment, on travaille, ça fait partie de notre l'ADN de la compagnie, de s'adresser aux grands et petits en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on a la chance ici d'être présenté dans le cadre d'un festival jeune public, la première édition de la Mèche Courte. Et en même temps, on est programmé pour La Chapelle, qui a plutôt l'habitude de présenter des formes audacieuses pour le public adulte. Donc, on s'adresse à tout le monde à partir de 7 ans.
D'accord. Alors, c'est une forme audacieuse pour toute la famille, finalement, que vous offrez.
Absolument. Absolument. Comme on est plus du côté de la musicalité, de la cérémonie, du ressenti. Chacun se fait sa propre histoire, ce qui nous permet, je crois, là, de pouvoir s'adresser à un public large. Chacun va l'accueillir de l'eau où il est.
Parlez-nous de l'environnement sonore créé par Thomas Sinou.
La majorité de l'environnement sonore se fait en direct, donc à partir du son de la pluie qui tombe sur différents objets. Il y a aussi des micros dans l'espace qui nous permettent d'amplifier certaines actions pour rapprocher le spectateur. Donc, le gros de la conception, c'est l'environnement réel, parce que ben, l'eau qui tombe sur une bâche, tout ça, ça fait plein de textures de son. Puis ensuite, il y a bien sûr là, des ambiances qui sont elles, très préconçues, qui vont venir envelopper, créer une certaine théâtralité.
Est-ce que c'est la première fois que vous intégrez vos enfants à une de vos œuvres?
Non, c'est assez habituel là, pour nous. Donc, la plus vieille, elle a 15 ans. Je pense que ça doit être la quatrième, cinquième spectacle auquel elle participe. Puis celle de 6 ans, c'est déjà la troisième, même la quatrième. Oui, en tout cas, c'est une fois sur deux, on travaille avec nos enfants. On travaille déjà en couple, donc pour nous, c'est normal de travailler de la maison, de l'auto, d'être toujours en création. Il n'y a pas vraiment de limite entre le studio de répétition et la table à manger. Donc, c'est un peu naturellement là, que les filles se sont incluses dans cette envie de bricoler des spectacles ensemble.
Mais vous parlez de bricolage. Justement, vos spectacles ont souvent ce côté artisanal, bricolé. Qu'est-ce qui vous attire dans cette façon de faire-là ou de refaire?
Comment dire? C'est vraiment de donner un sentiment que l'objet théâtral n'est pas fermé. Quand les spectateurs arrivent, ils nous trouvent à un moment de notre vie et dans mon imaginaire, quand ils repartent, ça continue. Donc le fait que les choses soient pas, en tout cas, c'est pas toujours le cas. Là, on a déjà travaillé sur des formes beaucoup plus finies, mais ici, ça se construit avec et devant eux. Et ça crée, selon moi, une plus grande communion entre la scène et la salle qui nous voit poser des gestes concrets. Donc, on s'est construit une petite maison avec des bâches. Puis, au fil de la représentation, on continue de la patenter, de l'améliorer pour finir par l'ouvrir, la détruire. Donc, comme ça crée... ils voient bien qu'on est en action concrète. Là. C'est maintenant, c'est pour ça aussi qu'on utilise plus souvent le terme performance que théâtre pour ce type de spectacle.
Est-ce qu'il y a une interaction avec le public? Est-ce que vous brisez le quatrième mur?
Légèrement. Donc, ce spectacle s'appelle « Refaire la Marguerite ». C'est un deuxième volet. On a créé déjà une performance qui s'appelle « Faire la Marguerite » dans lequel il n'y a aucun quatrième mur. Où on charrie le spectateur, on l'arrose, on le met sous une bâche. Mais là, on passe dans un mode plus frontal. On le regarde, on va un petit peu vers lui, mais on reste quand même dans une contemplation pour les spectateurs.
Vous êtes professeur de théâtre à l'Université d'Ottawa, à Marie-Ouellette. Qu'est-ce que vous enseignez à vos étudiants?
Ben, j'enseigne différentes choses. Quand je leur enseigne en première année, je leur enseigne l'interprétation, un jeu plus classique, je dirais. Puis là, quand je supervise des étudiants à la mise en scène, je les aide à développer leur propre processus de création. Puis j'essaie de leur renseigner une grande curiosité sur comment on peut faire les choses différemment, comment les choses ont été faites jusqu'à aujourd'hui, comment elles continuent de se faire et quelles sont les nouvelles voies là, qu'on peut ouvrir pour la création contemporaine.
Vous êtes aussi une écrivaine de plateau. Qu'est-ce que c'est qu'une écrivaine de plateau?
Bien, une écrivaine de plateau, pour moi, en tout cas, comment je le vois, c'est qu'on n'arrive pas avec un texte au départ. On arrive avec des idées et les autres concepteurs participent de façon intrinsèque à la création. Donc ici, le son... Et c'était le point de départ, c'est l'écriture de cette pluie. Donc moi, je vais écrire le spectacle en fonction de ce que Thomas est capable de donner comme type de goutte, comme nombre de gouttes, comme rythmique qui va créer. Puis pareil, l'éclairage, des fois, Nancy, la conceptrice lumière, va créer des effets lumières que je trouve magnifiques ou très forts, et je vais les intégrer plutôt que ce soit moi qui dise « Hey gang, on veut raconter ça, voici ce qu'il faut que vous fassiez ». Moi, je me mets au service des autres éléments puis je les couds ensemble d'une certaine façon pour créer un événement.
Quel est l'objectif de refaire Marguerite?
L'objectif, c'est de passer un moment déroutant avec les spectateurs, c'est de se retrouver ensemble dans un moment qui nous échappe complètement, parce qu'on quand il y a un dégât d'eau, ça nous échappe. Bien là, ça nous échappe, mais comment on peut travailler, accueillir la catastrophe plutôt que de se braquer? Comment on peut et faire pousser de la poésie dans des endroits qui semblent a priori plutôt hostiles?
Alors, j'invite les gens à aller voir, vivre cette expérience, refaire la Marguerite les 8, 9, 13, 14 et 15 novembre à la Chapelle Sainte Contemporaine. C'est à l'intérieur du festival La Mèche Courte, tout nouveau festival. Merci beaucoup, Anne-Marie Ouellette.
Avec plaisir. Bonne journée.
Bonne journée.
J'aime comment tu bouges.
J'aime comment tu bouges.
Si t'étais l'amour de quelqu'un dont je serais jaloux, je vois très bien ce qui te trouve.
Je vois très bien ce qui te trouve.
Je veux ta lumière, les allumer, je veux qu'elle brille juste pour nous.
Qu'elle brille juste pour nous. Qu'elle brille juste pour nous.
La vie fait bien les choses, te les doigts à tes trousses. J'aime comment tu bouges.
J'aime comment tu bouges.
Le temps change, surtout. Ceux qui ont le fou. Tu dansais sur les tables, attiré par le trou. Pourtant ce que tu dégages me dérange et me charme. Et je sais ce que je te trouve. J'aime comment tu bouges. J'aime comment tu bouges. J'admire ta maîtrise à naviguer les eaux troubles. J'aime comment tu bouges.
J'aime comment tu bouges.
Comme ta lumière et tes nuits dévoilent avec qui je joue. J'aime comment tu bouges.
J'aime comment tu bouges.
Comme ton histoire mariée, la belle et le loup-garou. Maintenant la bête qui sommeille te reste suffisamment arrosé des plaies pour que ton soleil se lève. Danser sur les tables, attiré par le trou. Autant ce que tu dégages me dérange et me charme. Mais je sais ce que je te trouve. J'aime comment tu bouges, moi qui te regarde, attiré par le trou. Autant ce que tu dégages me dérange et me charme. Mais je sais ce que je te trouve.
La chanson « J'aime comment tu bouges » de Claude Bégin.
Quelques suggestions pour célébrer l'Halloween, l'incontournable Rocky Horror Picture Show, 50 ans cette année. Le bal est présenté le 30 octobre, aujourd'hui même, au Théâtre Rialto sur Avenue du Parc. Demain, jour d'Halloween, ainsi que le 1er novembre, les représentations se déplacent au Théâtre Descaries. Les représentations ont lieu à 19h et à 23h. Dans la presse plus, on donne aussi des suggestions, des plans pour l'Halloween, quoi voir, quoi faire ce week-end. Méga ciné-quiz d'horreur de spasme, c'est Manon Dumais qui écrit « Amateurs de films d'horreur, venez mettre à profit vos connaissances jeudi soir, donc ce soir, lors du méga ciné-quiz d'horreur de spasme ». Et c'est un événement animé par Jared Mann, qui est le directeur du Festival Spasme et quiz master du quiz cinéma bimensuel du Colonel Moutarde. La soirée promet d'être riche en surprises. Pour participer, il faut former une équipe de 2 ou de 4. Dépêchez-vous, les places sont limitées. Le quiz sera précédé du programme de court-métrage « Sans bon sang ». Et devinez comment s'écrit « Sans bon sang » ? S-A-N-G. Bon, S-A-N-G, « Sans bon sang ». Merci pour cette suggestion. Ça se déroule au Théâtre Plaza le 30 octobre à 18h. Pour les 16 ans et plus. Sinon, le 31 octobre ainsi que le 1er novembre, le Cinéparc Saint-Eustache propose plusieurs activités pour l'Halloween, dont la projection de classiques du cinéma d'horreur et d'épouvante. Êtes-vous un amateur de films d'horreur, Mathieu?
Non, pas du tout.
Pourquoi?
C'est
parce que vous avez peur d'avoir peur?
Non, non, c'est juste une question de personnalité, j'imagine.
Une question de feeling?
Exactement. Je préfère Herbert Léonard.
J'ai déjà... eu à créer une chronique, à préparer une chronique sur différents types de films, dont les films d'horreur. Et je me suis développé un torticolis. Je me souviens, j'étais dans mon salon avec mon oreiller. Et j'ai trouvé le truc pour avoir moins peur, c'est de fermer le son. parce que la musique joue un rôle fondamental dans les films d'horreur. Mais en tout cas, si vous êtes des amateurs, il y en a pour vous. Vendredi, à partir de 19h, les films Nosferatu, je ne connais pas.
Nosferatu.
Nosferatu, pardon, oui. It, Halloween. Halloween, ça, ça m'a fait tellement peur. Ils vont être projetés en version française et A Nightmare on Elm Street 4, ainsi que Hotel Transylvania en version originale anglaise. Les mêmes titres seront à l'affiche samedi à partir de 18h30. Hotel Transylvania sera cette fois en français, tandis qu'Halloween sera en anglais. Du bingo, du bricolage, d'autres jeux amusants sont au programme dans la journée dès 10h30. L'entrée est gratuite, mais les dons pour le club des petits déjeuners sont encouragés. Ça se passe au Cinéparc Saint-Eustache. Région 13, cette fois à Laval, pour célébrer l'Halloween autrement. Demain, rendez-vous du côté de Laval, où le public est invité à vivre Région 13. C'est une expérience singulière. Les curieux vont pouvoir emprunter un parcours insolite entre l'enclave, zone citoyenne au cœur de la place Belle, l'espace Montmorency, et le parc du collège Montmorency. Sur le trajet, ils seront transportés dans des univers fantastiques et étranges, où ils rencontreront des personnages énigmatiques ayant chacun leur histoire à raconter. La durée estimée de cette traversée nocturne est de 45 à 60 minutes, une traversée donc qui a lieu au centre-ville de Laval. Demain, entre 18h et 21h, et c'est gratuit. N'oubliez pas vos parapluies parce qu'on prévoit de la pluie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Joyeuse Halloween, beau temps, mauvais temps. Profitez-en bien. Et aussi, bon vote dimanche 2 novembre. Novembre. Dehors novembre. Non, bienvenue novembre. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins. Et c'est Denis Martin Chabot qui sera avec vous lundi. Ici Hélène Denis. Je vous retrouve mardi à compter 9h30. Merci Mathieu Tessier. À bientôt.